En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropillé dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Il y a un témoin, ce calice de la fondation, qui a traversé les 500 ans avec lequel on a célébré la première messe, probablement la même installation ici il y a 200 ans, je pense aussi ce matin, notre calice. Ce calice, il est témoin d'une histoire. Est-ce que dans 500 ans, on célébrera avec lui une messe d'action de grâce pour les 1000 ans du monastère. Est-ce que d'ici là, on aura changé de monastère parce qu'il aura fallu un monastère plus grand pour accueillir toutes les sœurs? Est-ce que d'ici là, le monastère aura fermé? Ou mieux, est-ce que le Seigneur sera revenu dans sa gloire d'ici là? Qu'importe. On ne vit pas pour faire de l'histoire et pour remplir les livres d'histoire. On vit pour suivre Jésus, lui être fidèle, pour répondre à un appel aujourd'hui, à la ligne de saint François, cet appel intérieur au cœur d'un monde bien bouleversé, Sainte-Claire à sa suite, avec son charisme propre, et puis au fil des ans, cet appel qui s'est déployé, qui a fallu adapter, mais avec toujours au cœur ce désir de suivre le Christ au plus près, le Christ pauvre, c'est-à-dire qui attend tout de son Père, qui attend tous les autres, vivre l'Évangile dans la prière entre les mains de Dieu. Saint Jacques avait déjà compris et vu le danger des richesses, il nous le rappelle avec beaucoup de force. Quand on lit Saint Jacques, on a un peu l'impression, plutôt quand on dit le pape François, on a l'impression un peu d'entendre Saint-Jacques, avec l'énergie du tempérament, la capacité à pointer les dangers, les richesses qui sont des fausses sécurités. Notre seule vraie sécurité, c'est Jésus. Tout le reste, ça passe. Et quand on regarde notre histoire de 500 ans, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été animé, c'est l'histoire de l'humanité. Les richesses aussi qui peuvent être volées aux pauvres, quand on n'est pas dans le partage, quand c'est pour accumuler aux dépens des autres. Alors il y a ce choix de vie radicale, et on sait combien Sainte-Claire a été attentive, plus qu'attentive, déterminée à pouvoir suivre le Christ pauvre et à rester pauvre à une époque où on disait, bah, si on engage des personnes sur la durée, il faut aussi qu'on ait les moyens pour vivre, et c'est vrai qu'il y a une sagesse à avoir, mais fondamentalement cette foi en la Providence. Et à l'époque de saint François et saint Pierre, comme déjà à l'époque de Jésus, il y avait bien des disciples comme la Jean pour dire, oh là là, mais ils ne sont pas vraiment avec nous, et nous on a des règles, il faudrait qu'ils les suivent comme tout le monde. Et puis, laissez faire, dit Jésus. L'esprit est à l'œuvre, comme dans la première lecture. Les anciens, ils ne sont pas exactement là où ils doivent être, mais si l'esprit leur est donné, on ne va pas l'arrêter. N'éteignez pas l'esprit. Ce grand défi dans notre Église. En même temps, il faut structurer, il faut accompagner, il faut veiller, parce qu'on a vu que, et on le voit, qu'il peut toujours y avoir des dérapages, qu'il peut y avoir des prises de pouvoir, qu'il peut y avoir des déviations, qu'il peut y avoir des scandales quand il est question dans l'Évangile. On pense évidemment au scandale des abus, donc il faut des règles, il faut des principes, et puis en même temps, il faut cette disponibilité à l'Esprit. Mais ce qui fait l'histoire de notre Église, ce n'est pas une suite de héros plus ou moins connus. Ce qui fait l'histoire de notre Église, c'est cette présence de l'Esprit-Saint au cœur de notre histoire humaine. Notre histoire humaine, elle sera toujours complexe. C'est vrai l'histoire de notre société, c'est vrai l'histoire de Montbrison, et vous l'avez vécu avec cette histoire de Montbrison, ces grands moments et ces moments plus difficiles, mais c'est vrai aussi de chacune de nos histoires. On pourrait rêver d'une histoire simple, facile, que tout aille comme on l'a prévu et soit bien ordonné et offre un parfait spectacle. C'est pas ça. C'est pas ça l'histoire de nos vies. C'est pas ça l'histoire de nos communautés. C'est une histoire d'un combat spirituel entre le bien et le mal. Cet amour de Dieu qui nous est donné, cet appel intérieur qui nous traverse et puis en même temps, toutes nos difficultés à y répondre. Ce n'est pas... L'objectif n'est pas d'avoir une histoire glorieuse, mais d'avoir une histoire sainte. C'est-à-dire une histoire traversée par l'Esprit Saint. Cette semaine, j'étais dans les visites à Dimina, à l'occasion d'une belle rencontre avec le pape, et il nous a remis à propos de la question des abus. En disant, il va y avoir ce rapport qui va être rendu, que l'on a demandé, pour faire la vérité, et le pape a dit bon. On n'a rien à cacher, y compris reconnaître nos propres limites et les propres péchés à l'intérieur de l'Église. Mais il dit, mais ce qui est plus important surtout, faites une catéchèse pour découvrir que ce n'est pas qu'une question de psychologie, ce n'est pas qu'une question de sociologie, que c'est ce combat spirituel. Cette présence du bien et du mal, ces forces du mal, nos compromissions aussi. C'est ça qui est au cœur de l'histoire. Et c'est ça aussi qui est au cœur de chacune de nos histoires. Et la seule réponse possible, c'est notre attachement au Christ. C'est-à-dire, pas à un personnage de l'histoire qui nous aurait donné des bons principes avec lesquels on va essayer de gérer au mieux notre quotidien, mais le Christ ressuscité, qui est vivant, qui est là à nos côtés. Si on est Clarisse, c'est parce qu'on a une épouse du Christ, vous avez même un anneau au doigt qui le signifie. Cette épouse, c'est une proximité, c'est une vie avec. C'est un don mutuel. Mais c'est vrai pour vous, mes sœurs, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Quelle est notre proximité avec le Christ? Quel est notre rapport avec lui? Est-il un proche? Est-il notre compagnon le plus proche? Ou bien est-il simplement une référence lointaine avec quelques principes religieux que nous essayons d'honorer? cette proximité avec le Christ, quelle est la place de la prière? Le pape nous l'a redit avec force, on va mettre la première mission des évêques, prier. Prenez le temps de prier. La première mission des chrétiens, prier. Avant la charité, prier, parce que la charité, elle jaillit de la prière. La charité, elle est le don de l'Esprit Saint. Et pour que l'Esprit puisse agir en nous, il faut commencer par accueillir, il faut commencer par vivre avec. Et ce sera toujours un défi, on aura toujours 50 belles choses à faire à la place. Commençons par prier, par vivre cette intimité. Et si le témoin de ces 500 ans d'histoire, c'est ce calice, c'est peut-être pour vous remettre sans cesse au cœur de votre vocation. Ce calice sur lequel on redira les paroles du Christ, ceci est mon sang versé pour vous, faites cela en mémoire de moi. Jésus qui nous dit, j'ai donné ma vie pour l'humanité, faites cela en mémoire de moi. Ce n'est pas seulement les prêtres qui doivent continuer à célébrer l'Eucharistie, ce qu'on essaie de faire depuis 2000 ans, c'est chacun d'entre nous, comme Jésus a donné sa vie, donnez votre vie, là où vous êtes, dans votre vocation de clergé, dans votre vocation de père et mère de famille, dans votre vocation de marié, dans votre vocation au cœur de la société. Faites cela en mémoire de moi. Demandons au Seigneur cette grâce de vivre cette communion avec lui, et c'est dans l'Eucharistie que cette communion trouve sa source et son sommet, et demandons au Seigneur de vivre cette communion comme partageant sa vie, partageant son amour, partageant cette dynamique du don qui a conduit Jésus jusqu'à la fin. Et donc, si chacune de nos vies peut être tourmentée, on n'a pas à s'en étonner. Et Jésus-Christ ne nous promet pas autre chose, on n'est pas chrétien pour être à l'abri de toutes les difficultés, on est chrétien pour aimer jusqu'au bout, et ça va comporter la croix, mais la joie de la croix, la joie du don, avec des moments heureux, avec des moments de combat plus douloureux, mais fondamentalement, faites cela en mémoire de moi. Avec moi, offrez-vous pour la vie du monde. Et tout ce que nous avons apporté d'heureux et de difficile, de très lourd à certains moments, pour la vie du monde, avec Jésus, au cœur de l'Eucharistie. Ce qui a permis de traverser ces 500 ans et ce qui permet d'envisager la suite, c'est cette offrande du Christ rendue présente dans l'Eucharistie. Est-ce que je consens à aimer avec lui et à aimer à sa manière? C'est cette question-là qui nous est posée par-delà. Toutes nos histoires, aussi belles soient-elles, c'est cette question-là qui nous est posée aujourd'hui. Est-ce que j'accepte de vivre l'Eucharistie? C'est-à-dire, est-ce que j'accepte que le Christ vienne jusqu'à moi, si simple, si pauvre, si petit, et en même temps, c'est Dieu lui-même. Mais pas seulement pour me réconforter et pour me mettre à l'abri des difficultés, que le Christ vienne jusqu'à moi pour que je puisse aimer comme lui, pour que je puisse me donner à sa manière. C'est ça qui fait la fécondité d'un monastère. C'est ça qui fait la fécondité d'une communauté. C'est ça qui fait la fécondité de notre Église. C'est la qualité de l'offrande de chacun de ses membres participant à l'unique offrande du Christ. Alors, frères et sœurs, continuons sur ce chemin. Nous nous inscrivons dans une belle histoire où tant d'autres se sont donnés avant nous. Et je pense que, les sœurs, vous avez mémoire des anciennes que vous avez connues quand vous êtes entrées au monastère. Vous vous inscrivez dans une grande histoire et puis d'autres poursuivront. C'est vrai pour le monastère, c'est vrai pour nos communautés paroissiales, c'est vrai pour toute notre Église. Nous nous inscrivons dans cette grande histoire, mais la question décisive qui nous est posée, es-tu prêt à t'offrir avec moi? Faites cela en mémoire de moi. Nous allons célébrer l'Eucharistie en mémoire du Christ. Il va se donner à nous. Demandons-lui la grâce de nous donner avec lui. Amen.